Pour une célébration de Calvin, ça ne tombe pas très bien, parce qu'en fait, la prédestination, qui était l'un des grands thèmes de la pensée de Calvin, je suis contre. Donc c'est une célébration à l'envers, qui consiste à dire finalement de Calvin que je ne suis pas d'accord avec lui. Mais en même temps, c'est assez important, je crois, parce que c'est vrai que nous ne sommes pas les adorateurs de Calvin. Calvin a lancé l'Église, il a eu une certaine conception de l'Église, et aujourd'hui cette Église n'est plus celle de Calvin, c'est la nôtre. Par conséquent, on a toute liberté d'être d'accord ou pas avec ce que disait Jean Calvin. Alors la prédestination, ça a été le gros problème de la vie de Calvin. D'abord parce que de son temps déjà, ça a été très contesté. Il a eu énormément d'adversaires, même chez les protestants, sur ce thème. Mais donc, de quoi s'agit-il ? Pour le commun des mortels, c'est-à-dire pour tout le monde, on pense que la prédestination, cela veut dire que notre destin est écrit. C'est-à-dire que ce qui va nous arriver, demain, après-demain, est déjà écrit quelque part dans le ciel, et que par conséquent, tout est déjà déterminé. Personnellement, je ne pense évidemment pas cela. Je crois que notre destin n'est pas écrit, et je crois, comme tous les auteurs de la Bible, que notre avenir est totalement ouvert et que personne ne peut savoir ce que sera notre lendemain, ni nous, ni vous, ni même Dieu. D'ailleurs, c'est cohérent, puisque Dieu, dans la Bible, n'arrête pas de dire aux gens « Mais repentez-vous, c'est-à-dire reconnaissez vos erreurs, changez d'existence, reprenez votre vie en main. » Si jamais les choses étaient déjà déterminées, Dieu ne demanderait pas aux gens de changer de vie. Donc je pense effectivement que nous avons une totale, je dirais, liberté, enfin, totale peut-être pas, nous avons une liberté en tout cas de choisir notre existence d'une certaine manière et qu'il n'y a pas de déterminisme dans le futur, il n'y a pas de, je dirais, d'horoscope divin qui dirait que nous allons nous marier à tel âge et mourir à tel autre. Bon, cela dit, ça tombe bien puisque ce n'est de toute façon déjà pas ce que disait Calvin. La prédestination de Calvin ne concernait pas du tout ce que l'on allait faire le lendemain ou le surlendemain. C'était plus technique que ça. Ça concernait la question de notre salut. Alors ça, c'est une vieille question du Moyen-Âge. Aujourd'hui, je crois que les gens d'aujourd'hui se fichent un peu de savoir s'ils vont être sauvés ou non. Ça veut dire s'ils vont aller au paradis ou en enfer. Mais à l'époque, on s'en préoccupait. Alors, ce que l'on disait à ce moment-là, c'est que Dieu juge et il regarde si on a fait des bonnes ou des mauvaises œuvres. Ceux qui ont été bons, il les envoie au paradis. Ceux qui sont mauvais, il les envoie en enfer, et c'est comme ça. Et Calvin disait, non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce n'est pas par vos bonnes œuvres ou vos mauvaises œuvres que vous irez en enfer ou au paradis. C'est Dieu qui choisit. Et Dieu choisit pour vous, il vous prédestine à être sauvé ou à être perdu. Alors c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que si je dis vous êtes prédestiné à être sauvé, c'est super. Parce que du coup vous dites que je fasse, quoi que je fasse, j'irai au paradis. Donc c'est formidable. Ce qui est moins drôle, c'est que on parle chez Calvin de double prédestination. Donc il prédestine certains au salut, et il en prédestine d'autres à la perdition, c'est-à-dire que Dieu choisit arbitrairement d'en envoyer certains au paradis et d'autres en enfer, sans considération de ce qu'ils ont fait de bien ou de mal, c'est son choix propre. Alors là, on coince un peu plus, parce qu'on trouve qu'il y a là un arbitraire divin qui est quand même un petit peu difficile à avaler. Alors du coup, il faut essayer de comprendre quand même d'où ça vient. Je vais essayer de vous expliquer. Je vous disais que, avant les réformateurs, on disait Dieu juge ceux qui font les bonnes œuvres, il les envoie au paradis, ceux qui font les mauvaises œuvres, il les envoie en enfer. Les réformateurs se mettent à lire la Bible et ils disent « mais ça ne marche pas du tout ça ». Parce qu'il y a dans l'Évangile ce qu'on appelle le pardon et que Dieu peut pardonner même à celui qui a fait du mal et que par conséquent, même celui qui a fait du mal, Dieu peut très bien l'envoyer au paradis puisqu'il lui pardonne. Donc déjà, la comptabilité des bonnes et des mauvaises œuvres ne fonctionne pas. Et il y a encore autre chose de plus important. C'est que Dieu n'est pas un juge qui surveille d'en haut le bien et le mal qu'on fait pour nous punir ou nous récompenser. Mais Dieu, c'est comme un père d'amour qui nous aime infiniment et qui nous aime tellement qu'il nous accueille, quoi que l'on fasse. Comme les parents qui aiment bien leurs enfants, eh bien, les accueillent toujours dans leurs bras, même s'ils ont fait toutes les bêtises du monde. Et donc Dieu nous sauve, non pas à cause de nos œuvres, mais il nous sauve parce qu'il nous aime. Par conséquent, si Dieu nous sauve, ce n'est pas parce que nous faisons le bien, si Dieu nous sauve, c'est parce qu'il nous aime. Et si les parents aiment leurs enfants, ce n'est pas parce qu'ils travaillent bien à l'école, c'est parce que ce sont leurs enfants, et point, c'est tout. Alors ça, c'est très beau, ça, et je suis tout à fait pour ça. Donc jusque-là, je suis d'accord. Le problème, c'est que dans la Bible, il semble que tout le monde ne soit pas sauvé. Certains vont en paradis, d'autres en enfer. Et si le salut ou la perdition ne dépend pas de nous, mais ne dépend que de l'amour de Dieu, eh bien ça veut dire que donc Dieu choisit quand même d'en envoyer certains en enfer, et on tombe dans cette doctrine qui est insupportable. Eh bien voilà, tout ça à cause de ça. Aujourd'hui, je ne connais à peu près aucun protestant qui croit dans la prédestination calvinienne. Alors, comment peut-on s'en sortir ? On peut essayer d'abord de dire, bon, ben, après tout, c'était le problème de Calvin, et nous, on peut avoir une autre idée. La plupart de nos contemporains, ils disent, c'est facile. En fait, c'est vrai que Dieu nous sauve par amour, mais en fait, Dieu sauve tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde est sauvé parce que Dieu nous aime tous, et donc il nous accueille tous dans son cœur et dans son paradis, et donc il n'y a aucun problème. C'est, je crois, ce que pensent la plupart des protestants aujourd'hui, ou des catholiques aussi d'ailleurs. Mais ça a une limite, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que quand même Dieu accueille tout le monde en même temps, Mère Teresa avec Hitler, les saints avec les plus abominables assassins, et c'est un peu gênant. On a l'impression que Dieu finalement se fiche de tout, et ça pose un petit problème sur la conception de Dieu que l'on a. Alors la solution que je propose, moi, je dis moi, c'est pas pour me mettre en valeur, c'est plutôt pour relativiser l'opinion que je vais vous dire, puisque je suis à peu près la seule à la dire, donc ça ne doit pas être très intéressant. Mais néanmoins, voilà ce que je propose. C'est de dire, l'idée de couper l'humanité en deux, entre ceux qui vont au paradis et ceux qui vont en enfer, c'est une idée grotesque. Parce qu'il n'y a pas les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Et nous sommes tous à la fois un peu bons, un peu mauvais. Et que par conséquent, il n'y a pas un tri dans l'humanité entre ceux qui vont d'un côté et ceux qui vont de l'autre, mais le tri se fait en nous. Et donc je crois que Dieu nous sauve tous, mais que Dieu ne garde de nous que le meilleur. Et le mauvais, il l'oublie. Je reparle encore un petit peu aux enfants. Je dirais que ce serait formidable d'avoir des parents comme ça, qui ne se souviennent que des bonnes notes et qui oublient les mauvaises. Ce serait évidemment extra. Eh bien, Dieu, il est comme ça. Il ne garde que le bon et il oublie tout le mauvais. Par conséquent, Dieu sauve tout le monde, mais d'une certaine manière, il sauve plus celui qui est bon que celui qui est mauvais. Et celui qui est très, très, très mauvais, s'il y a très peu de bon en lui, eh bien, Dieu gardera peu de choses de lui. Mais que de toute façon, c'est Dieu qui a choisi de le sauver. Personnellement, c'est ce que je crois. Alors maintenant, comme je suis quand même, je fais un effort, comme on est l'année Calvin, il faut essayer de sauver Calvin, je vais essayer quand même de vous dire pourquoi Calvin avait eu cette idée-là. Son idée, c'était de dire, écoutez mes petits amis, cette question de savoir si vous irez au paradis ou en enfer, on s'en fiche. Ne vous la posez pas, ça appartient à Dieu. Et Dieu a ses raisons. Et donc arrêtez de discuter avec Dieu pour savoir si vous méritez ou non d'être sauvé, c'est le propre de Dieu. Et donc renvoyez cette question à Dieu, vous ne pouvez rien en savoir, c'est comme ça, point, c'est pas votre affaire. Donc arrêtez de vous en préoccuper et dites-vous simplement que vous êtes sauvé. Ah mais oui, mais sauf que chez Calvin, comment puis-je savoir si je suis sauvé ou non ? Calvin a la réponse, il dit, ben écoutez, le seul fait que vous vous posiez la question est la preuve que vous êtes sauvé. Puisque celui qui n'est pas sauvé, il est tellement loin de Dieu qu'il ne s'en rend même pas compte. Donc si vous vous posez la question de savoir si vous êtes sauvé, c'est que vous l'êtes. Par conséquent, vous êtes sauvé, tout va bien. Et là, je crois que Calvin disait une chose formidable, parce que je crois que l'on ne peut vivre que dans la sécurité, si vous voulez, et que dans l'amour. Et de dire, voilà, ce Dieu-là, c'est un Dieu qui vous aime, c'est un Dieu qui vous a déjà sauvé, c'est un Dieu qui vous accueille sans condition, et ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend que de lui. Mais ça donne une joie extraordinaire, ça donne une liberté extraordinaire, ça donne une reconnaissance. Et à ce moment-là, je crois que la vie de chrétien ne peut pas être une vie de terrorisé. On ne peut pas être une vie de quelqu'un qui se dit « mais c'est affreux, je vais recevoir l'enfer, je vais être puni, je... » Non, la vie du chrétien, c'est quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui est aimé, quelqu'un qui sort dans la rue et qui dit « écoutez, je suis aimé et je vous aime. » Quelqu'un qui dit « je vous pardonne parce que moi-même je suis pardonné. » C'est quelqu'un qui est joyeux, qui est libre et qui est aimé. Et ça, je crois que c'est quand même fondamental. Et qu'effectivement, la prédication de l'Évangile aujourd'hui, ça doit être de vous dire ça, de dire ça à chacun. Vous êtes aimé, vous êtes libéré, vous êtes pardonné. Je dirais, où est-ce que l'on entend ça? Nulle part. Partout dans notre boulot, il y a une sorte de pression fondamentale. Et pas que chez les grands, hein, chez les petits aussi. Je dirais, dès la maternelle, est-ce que j'arriverai au CP à apprendre à lire? Mais c'est terrible, cette pression permanente de savoir si on sera à la hauteur, si on y arrivera, si on ne va pas être au chômage, si on ne va pas divorcer, si on saura élever ses enfants, si on saura gérer sa vieillesse, si on sera patron Alzheimer plus tard, et si on arrivera même à réussir sa mort. C'est terrible, cette pression, vous vous rendez compte? Et qu'il y ait quand même un endroit où on vous dise « no problem ». Eh bien, la prédication de l'Évangile, c'est ça, de dire « écoutez, vous êtes aimé et vous êtes libre, alors... » Laissez tout ça de côté un peu, c'est pas votre affaire. Eh bien, moi, j'aime ça, personnellement. Et je trouve que, de ce côté-là, Calvin avait raison. Quant aux quelques-uns qui sont prédestinés à être perdus, on n'en parle pas trop. Bon, c'est comme ça. Aucune théorie n'est parfaite. C'est le dommage collatéral d'une théorie un peu médiévale. Bon. Et puis, enfin, autre façon de sauver la théologie de Calvin... Effectivement, c'est d'aller dans le sens de ce que je vous disais là à l'instant, sur lequel j'ai empiété en quelque sorte. C'est de dire que même si aujourd'hui, la plupart d'entre nous se fichons un peu de, je dirais, d'aller au paradis ou en enfer, notre enjeu aujourd'hui, il est quand même du même ordre, et je pense que vous l'avez entendu venir, notre enjeu aujourd'hui, c'est de réussir sa vie. Et du coup, je voudrais insister là-dessus, parce que je crois qu'il faut considérer la vie comme autre chose qu'un examen de passage. Moi, j'ai été élevé dans cette idée-là, malheureusement. On m'a dit, la vie, c'est un peu comme un baccalauréat ou comme un examen de passage, il faut la réussir. Eh bien, vous n'avez pas à réussir votre vie, elle est déjà réussie en Dieu. Et vous n'avez pas à mériter votre existence vous est donnée et elle est à vous. Vous n'avez pas à montrer que vous avez le droit d'être dans ce monde. Vous avez le droit, qui que vous soyez, d'avoir votre place dans ce monde. Et vous n'avez à rougir devant personne, parce que nous avons tous, je dirais, une dignité fondamentale qui ne vient pas de nous, mais qui nous est donnée. Et c'est ça le message, je crois, de Calvin. De dire le salut, c'est-à-dire la réussite de sa vie, n'est pas quelque chose que l'on se fabrique soi-même, c'est quelque chose que l'on reçoit et qui nous est donné. Par grâce. Donc c'est une bonne nouvelle, autrement dit. Dieu a choisi de nous sauver, même si nous ne le méritons pas. Dieu a choisi de nous aimer et de tout nous donner, même si nous ne sommes pas aimables. Et les réprouvés, dont je parlais tout à l'heure, je crois que ce n'est pas des gens parce que personne n'est réprouvé, mais ce que Dieu simplement jette à la poubelle, définitivement, c'est tous nos mauvais côtés. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour moi, parce qu'en moi, je sais bien qu'il y a des mauvais côtés. Il y a de l'égoïsme, il y a de la jalousie, il y a de l'intérêt, il y a de la violence. Eh bien, tout ça, Dieu, hop, il le jette à la poubelle. Et il me garde, moi, quelle chance, je ne mérite pas, et il garde que le meilleur. Et donc, c'est une formidable bonne nouvelle. Formidable bonne nouvelle, que tout cela, finalement, l'essentiel de ma vie, ne dépende pas de moi, mais soit simplement un cadeau qui me soit donné, et que cela puisse rendre nos cœurs toujours joyeux, que cela puisse nous rendre libres et reconnaissants. Alors vous me direz, mais oui, mais c'est risqué de rendre les gens libres et reconnaissants, ils pourraient en profiter pour faire n'importe quoi. Ah, alors mettez des lois pour ceux qui ne comprennent rien, mais pour vous qui êtes là, Vous êtes libre, vous êtes aimé, soyez libre, reconnaissant, vous êtes sauvé. Il n'y a aucune menace, simplement un Dieu d'amour qui nous sauve. Amen.